Mais non, je fais pas d'amour. J'accouche.
Alors vous diriez que les contractions sont plutôt peu rapprochées, un peu rapprochées ou très rapprochées?
Elles sont super, super rapprochées.
Ok, super rapprochées.
Devenir maman. L'émission qui vous raconte comment ça se passe.
Donc, alors, super rapproché, est-ce que ça veut dire 4 secondes, 4 à 6 secondes, 6 à 8 secondes?
Je peux pas compter, la bordel de merde.
Excusez-la, d'habitude, elle dit jamais ces mots-là. Hein.
T'es trop beau.
Alors, comment il s'appelle?
Félix.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 3 émissions spéciales qui montrent à quel point les femmes sont de courageuses guerrières. Nous allons parler de sujets que l'on connaît mal quand on ne les a pas vécus. C'est intime, c'est compliqué, ça montre pas toujours une très belle image bien lisse de nos vies. Parfois au contraire, ça montre les plus belles images qui soient. C'est parfois encore tabou pour pas mal de raisons. Nous allons parler de grossesse, d'accouchement et de l'après. Le but de ces 3 émissions, c'est d'aborder ces sujets dans le détail, d'aller dans le concret pour en savoir plus et surtout pour transmettre. Plein de femmes ont accepté de raconter des moments importants pour elles pour informer les plus jeunes ou même les moins jeunes qui ne les ont pas vécues. Et contrairement au film, où il y a un super accéléré avec un fond musical pendant la grossesse, ou alors où la scène se coupe pendant l'accouchement, nous, on va aller pile à ces endroits-là pour lever le voile. Enfin, en tout cas, prendre la parole et raconter, parce que s'il y a bien une chose à retenir, finalement, c'est que chaque expérience est unique. Alors, autour de moi, plusieurs femmes qui sont à différentes étapes ou rôles par rapport à ce moment de la vie, à ce moment réservé aux femmes. La plus jeune, pour commencer, c'est Solène. Solène, lycéenne, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet et qui a l'air d'en savoir plus que moi. Solène est allée questionner, non, elle fait non de la tête. Elle est allée questionner les jeunes dans un micro-trottoir qu'on écoutera et elle vous posera avec moi les questions qui l'intéressent. Bonjour Solène.
Bonjour.
Alors, dans l'ordre chronologique de la vie, nous sommes aussi avec Camille qui est enceinte. Bonjour Camille.
Bonjour.
De combien de mois?
De 5 mois, là, dans le 5e mois.
De 5 mois. Donc, tu nous raconteras un peu ce que tu vis et tu partageras tes questionnements et réflexions avec nous. On le fera toutes ensemble. Et puis ensuite, il y a Amélie, qui est maman depuis presque un an maintenant.
Bonjour.
Bonjour, Amélie. Donc, on verra si tu te retrouves dans les témoignages que tu vas écouter. Et puis, pour finir, nous sommes aussi avec, on va dire, notre guide spirituel, notre experte, Joséphine, sage-femme. Bonjour, Joséphine.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous toutes?
Très bien.
Super.
Oui, ça va.
Allez, super. Donc, le but, c'est que ce soit une conversation ponctuée par les sons que je vais vous faire écouter, mais sentez-vous libre d'échanger, de discuter, voilà, à tout moment. Pour garder un peu de cohérence, on va par contre rester dans un ordre chronologique des choses. Et avant de rentrer dans le détail, place aux jeunes. Solène, pourquoi est-ce que ce sujet t'intéresse tant que ça? À ton âge, quel âge as-tu, Solène?
J'ai 18 ans, depuis janvier. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse et que ma mère a eu 6 enfants. Et je sais pas pourquoi, mais depuis toujours, genre, c'est quelque chose qui revient beaucoup, la grossesse, tout le temps, tout le temps. Les mamans qui sont enceintes. Enfin, moi, j'ai vu ma maman quand elle était enceinte, son gros ventre, les câlins, tout ça. Et on va dire que oui, j'ai toujours grandi avec un bébé autour, avec une tati ou quelqu'un qui est tout le temps, tout le temps. Et je trouve ça juste magnifique et trop beau. Et depuis que je suis petite, je me dis, ah, quand j'aurai un enfant, ah, quand j'aurai des enfants, parce que je pense que du coup, j'en aurai plusieurs. Aujourd'hui, je dis minimum 4. Après, je verrai, mais bon. Mais enfin, voilà, j'aime beaucoup trop. Enfin, dimanche aussi, j'étais avec des enfants, des bébés, voilà, de 1 an, 6 mois. Et je sais pas, je trouve ça merveilleux.
Alors, on va voir si les autres jeunes de ton âge trouvent ça merveilleux aussi. On va écouter le micro-trottoir que tu as réalisé.
Moi, j'ai 15 ans.
J'ai 14 ans.
J'ai 12 ans.
Moi, mon point de vue sur la grossesse, c'est assez négatif. Parce qu'en soi, on nous donne toujours des idées en nous disant « Oh, c'est merveilleux, l'accouchement, la grossesse aussi. » Sauf que on a en ce moment la parole qui se dévoile sur les mauvais côtés de la grossesse et de l'accouchement, que c'est pas toujours tout beau et qu'on a des problèmes liés à l'accouchement et à la baisse d'hormones.
Franchement, j'ai l'impression, enfin, à en parler avec certaines de mes copines, moins, mais sinon d'habitude j'ai l'impression d'être un peu la seule à avoir une bonne vision de la grossesse.
Je pense que ma vision de la grossesse, elle a été très influencée par ma mère qui a eu 6 enfants. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez magnifique, le principe d'avoir dans son ventre un être humain qui est fait par toi.
Genre vous, en tant que garçon, là, vous avez 18-19 ans,
ouais,
comment vous voyez ce truc genre ?
Moi j'aimerais bien avoir un enfant.
Hein. À l'accouchement, ça doit faire mal. Hein.
Ouais.
Ouais, ça doit faire mal de fou. Hein. Je pense que c'est hyper fort comme moment.
Ouais.
Ça doit être fort. Mais pour le père ou pour la mère, hein, surtout pour la mère après, mais... Ouais, pour les deux, ça doit être fort en vrai. Ça doit être un moment fort.
Bah, je n'ai rien à dire. Ça m'arrivera jamais, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de mots à dire là-dessus, quoi.
Moi, j'ai 17 ans. Et ça me fait un peu peur. Parce que ça fait mal, apparemment.
Je sais que ça peut être très dur pour les femmes. Et du coup, moi, je suis plutôt compatissant. Et je respecte toutes les femmes qui ne veulent pas suivre cette démarche.
Poser la question, est-ce que je vais avoir des enfants dans le monde qu'on a actuellement ? Enfin, on parle beaucoup du climat et on le fait beaucoup en cours et on se dit, bon, est-ce que dans genre 50 ans, on aura encore un monde qui vaudra le coup, entre guillemets ? Bah, je me dis que là, ils vont arriver. Déjà, il va y avoir une planète en catastrophe. Enfin, je sais pas, genre, j'ai pas envie de laisser ce monde à mes... En fait, la société dans laquelle je vis, elle me plaît pas forcément et je sais que j'arriverai pas à la modifier et j'ai pas envie de l'imposer à mes enfants. Enfin...
Il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui voudraient un accouchement qui se passe sans péridurale. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, moi, je suis un petit peu partagée parce que d'un côté, ça permet d'éviter la douleur, mais je me dis que les femmes ont accouché sans péridurale depuis extrêmement longtemps. C'est naturel. Oui, j'aimerais bien accoucher de façon naturelle.
Ouais. Parce que pour toi, la péridurale, c'est pas naturel.
Ah bah non, se faire enfoncer une aiguille dans le ventre, c'est pas naturel quand même.
Il ne semble pas que ce soit dans le ventre.
Se faire enfoncer une aiguille, de toute façon, c'est pas forcément très naturel.
D'accord. Je pense que ça doit être extrêmement douloureux. Enfin, en tout cas, ma mère m'a dit qu'au début, quand elle a eu mon grand frère, du coup, au début, elle avait pas voulu de péridurale. Puis en fait, c'était extrêmement douloureux. Mais c'était tellement douloureux qu'elle en a finalement... Enfin, elle en a eu une, du coup. Mais vraiment, péridurale, c'est important, du coup.
Ouais.
Franchement... La seule peur que j'ai vraiment de l'accouchement, c'est la douleur. Mmh. Je me dis, mais...
Ah.
Déjà que, genre, quand tu te fais mal ou quand tu vas ressortir un enfant de mon ventre, enfin, moi, j'ai juste peur de la douleur, en fait.
Tu trouves qu'on en parle assez ou pas, actuellement, nous, jeunes, de tout ça, là, de ces sujets, de la grossesse et tout, tu trouves qu'on en parle bien ?
Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ça ne concerne pas maintenant. Mm. On va en parler quand ça va nous concerner, bien sûr.
Mm-hmm.
Mais maintenant, on est intéressé par d'autres choses, j'ai l'impression. Par exemple, le fait de ne pas avoir des enfants, par exemple, contraception, on parle de ça, tu vois. Mais, ou avortement, si jamais, mais pas la grossesse. Hein.
Non, on ne nous parle pas de l'accouchement en soi. On nous dit juste de, tu sais, comment se protéger. Mais on ne nous parle pas du tout de... À part les cours d'SVT, on ne nous parle pas en dehors de comment se passe l'accouchement, ce qui se passe, et on ne nous donne pas des documents pour savoir comment ça se fait. C'est par nous-mêmes qu'on cherche si on veut savoir ou pas.
Nous, à mon collège, on a eu un cours la semaine dernière où il y a une dame, je crois qu'elle est venue et elle nous a un peu expliqué beaucoup de choses, que si on avait des problèmes et des questions, on pouvait aller là-bas et il serait toujours là pour nous répondre.
J'ai 53 ans.
53 ans.
Et moi aussi, pareil, 53 ans.
53 ans. Votre avis sur la grossesse et l'accouchement en tant que...
Quand elle a envie de quoi que ce soit, il faut que ça arrive.
Voilà.
C'est de suite, quoi. Elle veut des prêts.
De suite, voilà, parce que c'est voilà. On appelle ça les envies de... Comment ? Explique-moi, tu veux, toi.
De la grossesse. Voilà, moi, c'était des mangues. Elle voulait des mangues.
Voilà, des mangues. Voilà.
Moi, c'est pas facile.
Ouais, moi, bah une non. fois, elle m'a demandé des fraises, mais il y avait pas. C'était pas le moment des fraises. C'était l'hiver, il n'y avait pas comme maintenant les fraises qui venaient d'Espagne.
Ouais. Mmh.
Et bien, j'étais obligé de lui en fabriquer des fraises avec des bonbons.
Oh.
Colorés et tout, juste quand elle les a vues. Voilà. Elle était contente.
Parce que...
Merci beaucoup Solène pour ce micro trop tard, pas de soucis. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette discussion autour de ton micro ?
Ah, c'était super intéressant. C'était intéressant parce que à la fois les gens avaient beaucoup d'avis et à la fois c'était aussi intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup d'idées qui revenaient et il y avait aussi beaucoup de personnes qui n'avaient aucune idée, mais vraiment aucune. Et du coup, d'ailleurs j'ai fait des sondages. Si vous êtes intéressé par des sondages.
Ah mais carrément,
ouais.
Sur quel genre de questions ?
Sur voudrez-vous avoir des enfants ? Il y a eu 95 votants et il y a eu 66 personnes qui ont répondu oui. Pour la péridurale, il y a eu 59 votants. Donc 43 personnes disent qu'elles veulent la péridurale et 16 ne veulent pas la péridurale. Il y a eu voilà, le fait que ce soit obligatoire, pratiquement tout le temps la péridurale, que c'est trop médicalisé, enfin que l'accouchement c'est devenu trop médicalisé, que ça devient un acte purement médical, que ça ôte les sensations, que la sensation d'accoucher, enfin c'est une sensation naturelle, que la douleur elle est ressentie pour une bonne raison, etc. On m'a parlé de risque de paralysie. Aussi, il y avait la peur, voilà, des aiguilles, et l'expérience aussi des proches, surtout, et des mères, ça a beaucoup joué. Du coup, je trouvais ça super intéressant. Et d'ailleurs, du coup, j'ai fait une petite recherche. Et en fait, en 2010, il y a l'INSERM qui a fait une étude et qui a montré que 70% des accouchements qui sont sous péridurale, du coup, 33% qui sont sans, enfin, il y avait 26% des femmes enceintes qui ne voulaient pas de péridurale. Mais parmi ces femmes enceintes, 52% en bénéficiaient à la fin.
De ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir. Pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour, c'est l'histoire de la vie.
On va, ouais. on va donc parler de toutes ces questions pendant l'émission, voir si voilà, les craintes des jeunes sont justifiées ou pas. Et ce que je vous propose pour commencer dans l'ordre chronologique, c'est d'écouter Katia et Pauline qui racontent le tout début, c'est-à-dire quand on voit le test de grossesse qui annonce qu'on est enceinte. C'est comment, Joséphine, un trait, deux traits, non, ça marche encore comme ça comme
oui, ça peut.
Dans les films.
Oui, ouais, deux traits positif, un trait négatif.
Je me souviens de quand j'ai découvert que j'étais enceinte pour ma première grossesse. Et ce n'était pas du tout une grossesse planifiée, c'était un petit peu une surprise. Et ma première réaction, ça n'a pas du tout été d'être heureuse ou de sauter de joie, ça a été de paniquer complètement, de me demander ce que j'allais faire et de me dire que c'était pas possible, quoi. Et pourtant, j'étais avec mon conjoint depuis plusieurs années, on était bien ensemble et on était heureux, on s'entendait bien, il n'y avait aucun problème. Je savais que je voudrais un jour des enfants avec lui, mais je pense qu'il faut un peu peut-être revoir les injonctions de la société sur ou les stéréotypes de quand une femme découvre qu'elle est enceinte, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est magnifique, il y a les oiseaux qui chantent. Pas du tout, pas forcément. Parfois c'est flippant, c'est toujours flippant même, je pense. Et ça peut être une grosse remise en doute. Après, quand je l'ai annoncé à mon conjoint, sa première réaction m'a énormément rassurée parce qu'il a été heureux alors que moi, ça a été l'opposé de moi. Et donc ça m'a énormément rassurée. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à me détendre un petit peu. Mais après ça, même en ayant accepté et en étant me sentant prête à avoir un enfant, j'ai pas tout de suite été heureuse de cet événement. Ça m'a pris plusieurs mois, je dirais tout mon premier trimestre presque, pour commencer à être heureuse de cette nouvelle. J'étais pas malheureuse, j'étais pas en stress, mais c'est juste, ça me paraissait étrange et c'était une grosse remise en question. Je me suis posé énormément de questions sur moi, sur ma vie, sur mon couple. Et donc, c'était une grosse période de questionnement pour moi, ces trois premiers mois. Et ensuite, je pense à peu près quand j'ai fait ma première échographie où ce petit haricot ressemblait à un petit humain. Et c'est là où j'ai réussi à réaliser et à être heureuse. Je voudrais partager ça pour que les gens ne culpabilisent pas, surtout les femmes ne culpabilisent pas si elles ne ressentent pas du bonheur, un bonheur complètement fou dès le départ. C'est tout à fait normal et chacun réagit à sa façon.
Après, on ne réalise pas trop en fait au début. Hein. Moi, on a vraiment réalisé qu'on allait avoir un bébé. L'écho du troisième mois où là on voit quand même vraiment qu'un petit être est formé avec des petites mains, un petit nez. Et là on se dit, ah ouais, waouh, c'est une expérience fabuleuse qui commence.
Alors Camille, Amélie, est-ce que vous vous rappelez ce moment-là? Je ne sais pas comment vous avez réagi.
Oui, moi je me rappelle. Hein, on avait acheté des tests de grossesse. C'était une grossesse voulue, donc on savait que. Enfin, on espérait que ça allait arriver en tout cas. Et oui, j'ai fait le test le matin en me levant. Mon conjoint était là, donc je lui ai tout de suite annoncé. Et sur le coup, effectivement, on était très contents. Et en même temps, je pense que tous les deux, on a mis bien 15 jours, 3 semaines à réaliser que c'était vraiment en train de nous arriver. Enfin, il y a toujours ce côté un peu... c'est abstrait, quoi. Enfin, OK, on voit de traits sur un test de grossesse, mais... Physiquement, déjà, on ne ressent pas grand-chose. Et puis, moi, j'avais un peu en tête ce truc de me dire, de toute façon, jusqu'à la fin du premier trimestre, il ne faut pas s'emballer, quoi. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Y a quand même un risque de fausse couche qui est plus élevé au début. Et moi, je pense que j'avais besoin aussi de ne pas m'emballer pour ne pas être trop déçue s'il se passait quelque chose, quoi. Donc... Mais oui, c'est sûr que c'est un moment un peu bizarre où on est content, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait. Et en même temps, de se dire, là, je suis enceinte, quoi. Je suis vraiment enceinte.
C'est pas rien.
Voilà, c'est pas rien. C'est un projet à long terme, quoi. tu peux pas te faire retour en arrière, quoi, après, quand c'est lancé. Voilà, il y a ce côté un peu... de permanence du projet qui est un peu angoissant, je trouve, au début.
Amélie ?
Ouais, moi, je me souviens aussi, effectivement, ça a été pareil que Camille, c'était une grossesse voulue. Donc, moi, j'étais hyper surprise parce que, en fait, je m'étais mis dans la tête que ça ne marcherait pas du premier coup. Quand j'ai vu que le test était positif et que ça avait fonctionné dès la première fois, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas marcher de la première fois. Enfin, voilà. Et après, moi, j'ai eu l'expérience de la fausse couche, du coup, de début de grossesse. Donc, j'ai fait une fausse couche au bout de 7 semaines, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai re-eu le vécu de l'autre test, qui, pour le coup, est encore moins surprenant, parce qu'au final, bon, on s'y attend à ce que ça fonctionne. Enfin, ceci dit, comme ça a refonctionné tout de suite après, mais bon, c'était aussi un peu surprenant. Mais ouais.
Et Joséphine, comment réagissent les personnes, les patientes, quoi ? Je sais pas, c'est pas toi qui leur apprends en général, elles le savent déjà.
Non, ouais, souvent elles viennent nous voir quand elles savent déjà qu'elles sont enceintes et qu'il faut prévoir un petit peu la première échographie ou les premiers bilans sanguins et qu'elles arrivent avec plein de questions parce qu'il faut modifier des fois le régime alimentaire, se réorganiser. Mais c'est vrai que j'ai bien conscience que c'est un processus vraiment d'acceptation et que ça met du temps, en fait. On ne devient pas enceinte, en tout cas maman, etc., comme ça, en un claquement de doigts, quoi. Ça met vraiment du temps. Et je pense que c'est important, toute cette période du premier trimestre de construction, un peu de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça modifie dans son corps, dans le couple, dans la famille, dans plein de petites sphères autour de ces personnes-là.
Et qu'est-ce que tu leur expliques ? Après, tu dis, elles arrivent avec plein de questions. Du coup, j'imagine que tu as habituellement toujours un peu le même schéma d'explication pour le premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu leur expliques à ce moment-là ?
Plein de choses. Je leur explique déjà qu'on va se voir une fois par mois. Donc, ça permet de poser les choses et que... de toute façon, leurs réponses, elles vont se faire petit à petit aussi, et que en trois quarts d'heure, une heure de premier rendez-vous, enfin des fois c'est même moins, c'est même une demi-heure des fois, on peut pas tout aborder. Donc déjà prendre le temps, et oui, du coup un peu expliquer comment ça va se passer pour l'échographie, pour la déclaration de grossesse, pour les prises de sang, etc., qu'est-ce qu'il faut rechercher, pourquoi. Donc, par exemple, on fait toutes les sérologies, des IST, on va doser la protéinurie, la glycosurie, donc c'est les protéines et le sucre dans les urines, pour différentes raisons, pour voir si tout va bien, quoi, si le rein fait bien son travail. Qu'est-ce qu'on explique ? Donc oui, du coup, au niveau de l'alimentation, qu'il faut faire attention à certaines choses si elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose, pour la listériose, tout ça. Et du coup, souvent, ça peut faire un peu peur, ça peut faire un peu du stress. Il faut un peu se réadapter, quoi, à ça, et ce n'est pas toujours facile. Mais aussi déculpabiliser, beaucoup.
Il y a quoi comme culpabilité, par exemple ?
Par exemple, elle se dit « Oh là là, la semaine dernière, j'ai mangé un bout de comté, est-ce que c'est grave ?»
Perso, quand j'imagine la grossesse, c'est vrai que je pense très peu à ce début, mais oui, par exemple, le vernis à ongles, j'ai entendu qu'on n'avait pas le droit de mettre du vernis à ongles, et ouais, c'est plus pour les interdictions. Ok.
Joséphine qui fait le nom de la tête.
Donc, il n'y a pas d'interdiction pour le vernis à ongles.
Je pense pas, non. En tout cas, moi, c'est pas un stop que je mets. Après, c'est plus... des fois, ça peut-être écœurer au niveau de l'odeur. Parce qu'il y a quand même une hypersensibilité des odeurs, des fois, des sons, tout ça. Donc,
ça contient des produits toxiques aussi, partie.
C'est plus pour ça, peut-être, peut-être l'alcool. Enfin, non, pas de l'alcool, mais...
Je sais pas exactement.
Qu'est-ce qu'il y a dans le vernis ? Je sais pas.
Camille ?
Oui, et puis moi, ce que j'ai trouvé, les questionnements aussi que ça soulève tout de suite après avoir appris qu'on est enceinte, c'est par où commencer ? En fait, on n'est pas forcément au courant de savoir avec qui est-ce qu'il faut prendre rendez-vous. On sait que c'est une sage-femme, mais est-ce qu'il faut prendre rendez-vous chez une sage-femme, chez un gynéco ? Est-ce qu'il faut y aller tout de suite ? Est-ce qu'en fait, ça sert à rien ? Plus, il y a le stress de pouvoir trouver un médecin, enfin, praticien.
C'est pas toujours facile.
Un praticien qui soit disponible aussi, parce que c'est pas forcément facile d'avoir un créneau. Voilà, il y a un peu ce truc de, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Par où on commence? Et moi, s'il y a un conseil que je peux donner, mais Joséphine l'expliquera mieux que moi, c'est de prévoir, quand on a un projet de grossesse, de prévoir peut-être un rendez-vous avec une sage-femme avant de savoir qu'on est enceinte. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous dit pas. Ou auquel on ne pense pas forcément. Et je pense que ça peut aider à mieux vivre ce début de grossesse aussi.
Oui, c'est vrai. Mais ça, on le propose hein, souvent. Enfin, on le fait, quoi, des bilans préconceptionnels, ça s'appelle. Et du coup, c'est une consultation qui permet justement de prévoir déjà tous les bilans, etc. Justement, d'expliquer tout ce qui va se passer. Ouais.
D'avoir des informations en amont.
Du coup, bon, on est contente de ça que je l'aime quand elle nous rappelle 3 mois après que ça y est, c'est lancé.
Et donc, justement, pour mieux comprendre comment ça se passe, quelles sont les étapes après on a parlé un petit peu du début, mais finalement, voilà, comment ça évolue ensuite une grossesse?
Ça va très vite. ça va très vite. Ça évolue. Moi, je sais que je languissais beaucoup, en fait. On parlait des 3 premiers mois, mais moi, j'ai souvenir aussi qu'on ne se rend pas compte, effectivement. Et moi, je languissais, en fait, d'avoir des choses qui se passent. J'avais l'impression qu'il ne se passait rien pendant ces 3 mois-là. Mmh. Je n'avais pas de ventre. Je ne sentais rien dans mon ventre. Puis bon, j'ai eu un premier trimestre très cool avec aucun symptôme pénible. Donc j'attendais de prendre du ventre, de sentir des choses. Après, une fois que tout ça c'est là, c'est chouette quoi. Quand on commence à sentir bouger le bébé, quand on commence à voir que le corps change et on réalise aussi. Et puis pour le conjoint aussi, c'est. Moi, mon conjoint, il réalisait pas en fait. Il a mis beaucoup de temps à réaliser même.
Oui, c'est une bonne question. C'est comment faire pour inclure vos conjoints dans une situation comme ça?
Moi, j'ai eu un premier trimestre très différent d'Amélie, dans le sens où, en fait, très rapidement, après avoir fait le test, j'ai commencé à avoir les super symptômes du premier trimestre. Donc, j'avais la nausée, j'étais épuisée, je suis passée à 2 siestes par jour à un moment, donc ça devenait compliqué de faire des journées complètes. Et puis à avoir des douleurs dans les seins, des choses caractéristiques qui ne trompaient pas. Et oui, pour inclure le conjoint, je trouve d'en parler, en fait, juste de dire... moi, je ne me privais pas, alors ça ne devait pas être très agréable, mais je ne me privais pas de dire tout ce qui se passait, tout ce que je ressentais, pour qu'effectivement, ils comprennent que le projet était lancé et qu'il était lancé à deux et que... à partir de maintenant, c'était plus comme avant, quoi.
Joséphine, je te vois acquiescer. Est-ce que toi, tu as des conseils pour partager ça à deux?
En tout début de grossesse, ouais, je pense qu'il faut beaucoup parler.
Et après
communiquer, tout ça. Et après, faut inclure complètement le papa, qu'il puisse parler au bébé, qu'il puisse poser sa main sur le ventre et ressentir aussi les mouvements du bébé. Voilà, proposer des petites choses, avoir des moments. Après, c'est jamais que le fœtus et le futur papa, parce que la mère, elle est présente, c'est son corps, etc. Et ces moments-là, après, c'est le papa, il l'aura après, quand le bébé sera né. Vraiment, plutôt de père à fils, quoi, ou à enfant. Mais ouais, je pense que c'est des petites choses toutes simples, en fait. Et je pense que les hommes, ils peuvent questionner leur femme, qu'est-ce qui se passe pour toi, quels sont tes besoins, est-ce que je peux te faire ci, est-ce que je peux te faire ça.
C'était très... ça dépendait aussi beaucoup du la personne en face, ouais. Quoi. Moi, je sais qu'il est resté toujours très... très rêveur par rapport à tout ça, et il a vraiment, je pense, réalisé quand elle était là. Mais enfin, c'était pas son truc de parler au bébé, de poser sa main sur le ventre pour sentir les mouvements, tout ça. Mais ouais, de temps en temps, c'est cool, mais c'était pas non plus. Voilà quoi.
C'est... Je pense quand même que c'est deux temporalités vraiment différentes entre une femme enceinte et un futur papa.
Je vous propose d'écouter alors les témoignages justement sur la grossesse que j'ai reçue. Il y a Pauline, Estelle et Paula.
Je pense que je peux dire, pour résumer, que c'était une période pleine d'imprévus et qui m'a appris à lâcher prise. Puis une période avec des hauts et des bas. Pour commencer, j'étais surprise de pouvoir tomber enceinte aussi rapidement. Et puis au début, j'avais des nausées horribles. Mais ensuite, surtout pendant le deuxième trimestre, je me suis sentie super en forme et tout s'est très bien passé. Vers la fin de la grossesse, j'ai été surprise à quel point les choses peuvent s'accélérer.
J'ai passé une belle grossesse où j'étais sereine, où j'étais bien dans ma peau, bien dans ma tête. La grossesse a vraiment été une belle expérience pour moi.
En fait, j'ai eu un début de grossesse assez compliqué dans le sens où j'étais très malade. J'ai eu énormément de nausées. J'étais tout le temps en train de soit avoir des haut-le-cœur, soit vraiment de vomir. Et en fait, il y avait tout qui me dégoûtait, toutes les odeurs. Il y a notamment une anecdote où Romain coupait un concombre dans la cuisine et moi, j'étais à l'étage dans la chambre, donc à l'autre bout du couloir. Et en fait, l'odeur de ce concombre coupé, je ne savais pas qui coupait un concombre, mais je l'ai senti, ça m'a fait vomir. Donc pour dire, voilà, c'était un écœurement total et complet, donc il a duré 3-4 mois. Et en fait, bizarrement, les seuls aliments qui passaient à peu près, en fait, c'était des aliments d'enfance. J'avais envie de kiri, de chocapic, de côte de porc avec des haricots verts en boîte. Et donc, je ne comprenais pas parce qu'en fait, je ne m'alimente plus du tout de cette manière-là maintenant. Mais c'était les seules choses qui passaient à peu près et qui me donnaient un minimum d'envie.
On a des témoignages très différents. Est-ce que ça vous, je sais pas, ça vous fait penser à des choses dans votre vécu?
Ouais, bah moi je rejoins assez Pauline là-dessus. J'ai eu une grossesse vraiment très très chouette. J'ai fait du vélo jusqu'au bout. J'ai fait des activités jusqu'au bout. J'ai été toujours très très active. J'ai jamais eu de problème des problèmes de fin de grossesse qu'on peut avoir. Tout était chouette, quoi. Je me sentais vraiment bien. Et pas. Même sur la fin où on m'avait dit, tu verras, le dernier mois, il est compliqué, on s'est encombré et tout. Et même ça, moi, j'attendais qu'une chose, c'était qu'elle arrive, mais parce que j'avais envie de rencontrer. Mais en fait, mon ventre ne me dérangeait pas plus que ça, quoi.
Et comment on vit le fait que son corps se modifie à ce point ?
Ouais, moi, je l'ai hyper bien vécu aussi. Enfin, en fait, j'ai pas pris énormément de poids. Mon corps, il s'est modifié surtout. J'ai eu un ventre, voilà, qui est apparu. Mais en fait, je pense que le fait d'être restée active, etc., fait qu'en fait, ouais, c'était simplement... J'avais un petit être à l'intérieur de moi, mais après, ma vie était comme d'habitude, quoi. Donc, pas si perturbant que ça.
Et Camille, de ton côté ?
Bah, moi, je suis en plein dedans, là. J'avais pas de ventre jusqu'à il y a 15 jours, donc...
Waouh.
Voilà, il s'est passé un truc bizarre. D'un coup, c'est sorti d'un coup. Et ouais, ça fait bizarre. Après, c'est pas désagréable, parce que, voilà, on sait que ça fait partie du jeu. Faut se réapproprier son corps. Enfin, moi, j'évite un peu les miroirs, quoi. En ce moment, je trouve ça bizarre. Je suis obligée de me racheter des vêtements parce que je suis mal dans les pantalons, ça me sert. Enfin, voilà, faut se refaire une garde-robe. Alors, c'est pas désagréable, hein. Mais voilà, c'est une étape. Puis après, on verra le reste, mais... J'espère justement pouvoir avoir une grossesse comme Amélie, à continuer à faire des choses jusqu'à la fin, pas être handicapée par le ventre et par la prise de poids.
Et au niveau des hormones, est-ce que vous avez ressenti des différences ?
Bah, moi, je me souviens que j'avais beaucoup plus envie de sucrer, notamment quand est arrivée la période de l'été. Là, je vous fais tout le temps des glaces. Mais à part ça... j'ai jamais eu le sentiment d'avoir plus faim qu'avant, d'avoir... J'ai pas eu l'impression que mon alimentation changeait outre mesure, si ce n'est le fait que j'avais plus envie de sucrer.
Et sur l'humeur, ça change des choses ? Camille qui...
Non, pas du tout. Si, moi je suis très impatiente... Mon conjoint se moquait de moi là, parce que le premier trimestre j'avais perdu tout sens de l'humour, donc il voyait ça. Sur mon visage que j'avais plus de second degré. Je suis pas très patiente et surtout je partais au quart de tour. Mais voilà, après pareil, en parlant et en rigolant comme on pouvait ensemble, ça aide à faire passer. Voilà, les hormones, moi ça a un peu joué, mais je pense que c'est très personnel aussi.
Ouais, mais si, moi j'ai quand même aussi, j'ai eu des phases de j'ai chialé hein, moi, pendant certains moments. Puis en plus, on était confinés quand même une bonne partie de ma grossesse, et en fait j'étais hyper frustrée de pas pouvoir partager ça avec ma famille, avec mes amis. C'était, des fois ça me pesait quoi. Et ouais, non, si, les hormones, ouais, les émotions sont parfois un peu décuplés, quoi.
Là, du coup, tu parles d'une grossesse qui s'est bien passée. Joséphine, qu'est-ce qui peut se passer ? Enfin, je sais que c'est pas forcément bien de parler aussi de ce qui se passe mal pour pas faire peur aux gens, mais en même temps, c'est la réalité parfois.
C'est la réalité aussi, c'est ça. Et oui, effectivement, je pense que chaque grossesse est unique, comme chaque femme est unique, et du coup, il y a autant de vécu que de grossesse. Et oui, une grossesse, elle peut un peu mal se dérouler, être compliquée. S'il y a, je ne sais pas, je peux donner des exemples. Il peut y avoir un décollement du placenta, peut y avoir une menace d'accouchement prématuré. Donc, c'est des contractions trop tôt, avec un col qui se modifie trop tôt. Du coup, ça veut dire beaucoup de repos. Parfois, il faut donner des médicaments, être hospitalisé pour ça. La grossesse, ça développe aussi de l'hypertension. S'il y a des facteurs de risque autour, si la dame elle a déjà une tendance à être hypertendue, le fait d'être enceinte, ça va décupler ça. Du coup, souvent, c'est des grossesses qui sont à risque aussi. Donc voilà, après, aujourd'hui, en France, on a quand même un système qui est bien rodé et toutes ces choses-là, elles sont généralement bien dépistées et il y a tout un suivi qui est mis en place. On essaye vraiment, en tant que sage-femme, du coup je suis un peu libérale en ce moment, et en tant que sage-femme libérale, on essaye de faire un maximum de liens avec les médecins, avec les gynécologues qui suivent aussi les patients. Enfin, on fait vraiment un double suivi, quoi, pour que oui, il y ait une surveillance médicale par un gynécologue, un médecin sur une grossesse compliquée, mais aussi ramener des fois aussi, la grossesse, ça peut donner des... Ça peut être, peut y avoir des complications, mais c'est quelque chose qui est normal, qui est physiologique et qui est normal pour le corps, quoi. Et donc le fait, je pense, de continuer à consulter une sage-femme, ça permet de ramener cette normalité-là.
Ça représente quelle proportion à peu près les grossesses à complications ?
Je pense que ça doit être 15%.
Ok, on a de bonnes chances de passer au travers.
Oui, si c'est... Justement, les complications, souvent, elles peuvent un petit peu s'anticiper aussi. Si c'est une personne qui est en bonne santé, qui fait de l'activité physique, qui mange bien, équilibré, tout ça, il y a de grandes chances que sa grossesse se passe bien. Mais si c'est une personne qui a déjà des pathologies, qui a déjà des problèmes de santé, qui... ça peut être n'importe quoi, hein, mais ou des personnes malades dans son entourage, etc. Ça, c'est vraiment des indices en fait qu'on recherche pour anticiper les choses. Ouais.
Depuis un moment, je fais une fixation sur un certain article dans un certain rayon. C'est même pas un truc dont j'ai besoin, enfin, pas pour l'instant du moins. Alors, quand je rentre dans un magasin, qu'on y vende de tout ou qu'on n'y vende de rien, je résiste pas à la tentation et je fonds devant le rayon.
Des petites chaussettes, des petites chaussettes. J'achèterai bien des petites chaussettes. Pour un bout de chou, pour un bout de chou. Que je chérirai plus que tout. Y'a rien à faire, je suis attirée par tout ce qui rime avec bébé. Faut croire que dans ma petite personne se bousculent mes hormones. Et toi, dans ta tête, ça résonne. Non, faudrait pas que tu m'abandonnes. C'est pas que je sois vraiment pressée, mais juste un petit peu obsédée par les petites chaussettes, les petites chaussettes. J'achèterai bien des petites chaussettes pour un bout de chou, pour un bout de chou que je chérirai plus que tout. Pourquoi les chaussettes et pas les chaussons? Ou encore les sucettes ou bien les biberons? Et tant qu'on y est, les papis gros, y'a tellement de choses pour ces marmots. Quand je vois une voiture, je pense siège auto. J'ai aussi un faible pour les landaus. Mais ma plus grande obsession, c'est ce qu'on met au bout des petons. Des petites chaussettes, j'achèterai bien des petites chaussettes. Pour un bout de chou, pour un bout de chou, que je chérirai plus que tout. En coton, petits ours brodés ou bien cœur, je craque pour toutes les couleurs. Non, je ne cache pas mon bonheur, car je sais qu'un jour reviendra l'heure en bleu ciel ou en rose bonbon pour une fille ou un petit garçon.
J'ai eu beaucoup de témoignages par rapport au temps, à la notion du temps, et en particulier parce qu'il y a eu beaucoup de grossesses en période de confinement, donc je pense que ça joue d'autant plus. Je voulais vous faire écouter ces témoignages et voir ce que vous en pensez. Il y a Pauline, Marraine et Estelle.
Le premier confinement, on ne savait pas ce que ça donnait, on n'avait aucun recul. Moi, j'avais aussi des petites anxiétés par rapport au bébé, par rapport à l'hôpital, la présence des pères, est-ce qu'ils ont le droit d'être là, pas le droit d'être là, est-ce qu'ils pourront être là à l'accouchement, ensuite les 3 jours de maternité, ça c'était des gros sujets d'angoisse. Donc on avait très peur durant cette période, mais bizarrement, même si on a fait cette peur, on a toutes été forcées, quand je dis toutes, c'est les mères qui allaient donner la vie, on a toutes été forcées à rester à la maison, calme, parce qu'il n'y avait rien à faire, on ne pouvait voir personne, on ne dit rien, on allait juste se balader et encore une heure dans le périmètre de je ne sais plus combien de kilomètres de la maison. Et en fait, ça a donné beaucoup de bébés. a priori, statistiquement, beaucoup de bébés qui sont nés à terme ou voire même après. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu un choc de me dire qu'en fait, c'est pas normal, un enfant qui naît avant. C'est que la mère est sous tension, la mère est stressée, la mère a trop de trajets, la mère a trop de travail. Et en fait, ça fait un peu prendre conscience que bah, quand on porte la vie, c'est quelque chose d'important et ça, il faut du temps pour soi, il faut un confinement, alors si possible, pas imposé, mais en fait, il faut prendre du temps pour soi. Et rester tranquille à la maison ou autre part, mais en tout cas, juste prendre l'air et sinon rester tranquille.
Voilà, je pense quand même qu'il faut s'accorder un peu de temps, du temps pour soi, parce que c'est vrai qu'on est vite pris dans la spirale de son travail, de son quotidien, et je pense que c'est important de se poser, de se dire que cette expérience, elle est quand même rapide, qu'elle est, je pense, peu importe comment se passe la grossesse, mais que c'est merveilleux de pouvoir donner la vie, d'avoir un petit être qui grandit en soi. Donc, mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se dire tout ça. Parce que ça passe tellement vite, et puis on est aussi un peu parfois dans le tumulte de l'organisation, d'accueillir un bébé, de vouloir aussi gérer parfois de front sa vie professionnelle. Donc que c'est important d'avoir ce temps-là pour soi, pour son futur bébé. Parce que c'est court quand même, et ça arrive peu de fois dans une vie au final.
Normalement, je suis quelqu'un assez speed. Quand je marche vite. Quand je parle vite. Je suis motivée, j'ai plein de choses à faire, plein d'idées dans ma tête. Et tout ça, c'était pas possible pendant ma grossesse parce que j'étais lent. Je pouvais plus marcher comme avant parce que j'ai quand même pris pas mal de kilos, donc j'étais fatiguée, j'avais du mal à respirer et tout ça. C'était difficile pour moi à accepter. Et j'avais l'impression un petit peu d'être sous drogue avec les hormones. Donc j'avais du mal à réfléchir, à comprendre les choses. Donc voilà, j'étais un peu frustrée. Et il fallait vraiment que j'apprenne d'être patiente avec moi-même. Donc ça, c'était le côté un petit peu négatif parce que voilà, de ralentir autant et de vraiment entre guillemets rien faire, même si j'ai fait quand même le truc le plus magique au monde. J'ai créé un bébé. J'avais un peu l'impression à rien faire et ça pendant 9 mois, c'était dur.
Alors, est-ce que ça, je sais pas, ça vous fait penser, ça vous rappelle des choses, ça vous fait penser à des choses ?
Moi, effectivement, je me dis que finalement, avec le recul, le confinement, ça m'a un peu gonflée, mais avec le métier que je fais, je sais pas si j'aurais été au bout de, enfin, si j'avais été jusqu'à mon congé maternité, parce que du coup, j'aurais été beaucoup trop speed, je pense, et on m'aurait certainement arrêté avant. Donc, quelque part, ce confinement a permis de me poser plus et de prendre le temps et d'être moins fatiguée, en fait, aussi. Et certainement, ce qui fait que la grossesse s'est bien passée, ça a dû effectivement jouer là-dessus. Ouais.
Joséphine, est-ce qu'il y a un lien, tu penses, entre le terme, la durée du terme et le confinement ?
Il faudrait regarder les statistiques, mais je pense que oui, quand même, il y a eu une diminution justement des menaces d'accouchement prématuré ou tout ça. Ça a vraiment permis aux personnes de se poser et de ne pas être dans la suractivité dont on a l'habitude aujourd'hui. Et après, je reconnais vraiment dans les témoignages que généralement, après, voilà, chacun est différent, etc. Mais souvent, le premier trimestre, c'est un peu le temps de l'acceptation, de un peu tout le futur se modifie, il faut se réadapter. Le deuxième trimestre, c'est un peu plus ok, je profite, ça y est, je suis enceinte, je réalise, je commence à je profite de ma grossesse vraiment. Et troisième trimestre, je pense que c'est important justement de prendre le temps, de ralentir, de préparer toute la maison, de préparer les affaires du bébé, de vraiment se projeter avec l'enfant. Je pense que voilà, c'est un peu le chemin que je dessinerai d'une grossesse.
Est-ce que vous auriez des conseils ? Pas Camille, tu voulais ? Non ? Est-ce que vous auriez des conseils pour les auditrices qui nous écoutent pour passer une grossesse dans les meilleures conditions ?
Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut s'écouter, en fait. On nous dit beaucoup, enfin, on entend beaucoup de choses. Il faut faire attention. Vous êtes deux. Il faut, enfin, beaucoup de, ouais, de ce qu'il faut pas faire, en fait. Et au final, ce qui marche le mieux, c'est de s'écouter. Enfin, moi, on m'avait dit non, mais arrête de faire du vélo, c'est trop dangereux. Pour le bébé, c'est pas bon. Enfin, j'ai fait du vélo le jour de mon accouchement. Je faisais encore du vélo, donc, enfin. Et ma sage-femme, d'ailleurs, me l'a toujours dit. Elle m'a dit « Ah non, non, mais vous, pas de contraintes, vous faites comme vous le sentez. » Ça, je pense que c'est quand même important.
Nous, en tant que sage-femme, on n'a pas de boule de cristal et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer s'il se passe ça, quoi. Enfin, on ne sait pas après les conséquences. Donc, souvent, c'est aussi beaucoup le conseil que je donne. C'est vous qui décidez, quoi. Peut-être qu'il y aura ça, peut-être qu'il y aura ça, peut-être que ça ira bien, mais... c'est vous qui décidez, et c'est vous qui vous écoutez, c'est votre corps.
On va continuer donc dans la chronologie. Et je vous propose d'écouter maintenant plusieurs histoires sur la fameuse anticipation du coup, de l'accouchement dont on vient de parler, et puis tout ce qui vient avec.
En ce qui concerne l'accouchement, moi j'en garde un très très bon souvenir. Je n'ai jamais eu peur de l'accouchement. Ça n'est pas du tout quelque chose était quelque chose qui m'a angoissé ou qui m'a stressé. Au contraire, j'avais une grande curiosité pour ce moment. Pour moi, je l'attendais avec impatience. Pour en fait, je le prenais comme une expérience sur moi-même. J'étais curieuse de voir comment je réagirais à la douleur, comment je réagirais à ce moment de stress.
Moi, j'étais impatiente, hein, comme j'imagine beaucoup de mamans, de voir ma petite fille. Donc, c'est vrai que je donnais tout, hein, pour, enfin là, une semaine avant le terme, j'ai marché, j'ai mangé de la cannelle, des dattes, j'ai tout tenté pour la rencontrer enfin. J'ai fini par la rencontrer, hein, bien évidemment, et c'est le plus grand bonheur de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai fini par perdre les os assis sur mon canapé, alors que ça faisait quelques jours que je n'essayais plus aucune technique. Donc voilà, tout ça pour dire, pour commencer, que je pense qu'on a beau lire plein de techniques, à mon avis, il faut pouvoir en fait juste se détendre et se dire « bon bah, pff, la nature fait bien son travail, donc profitons encore de ces derniers jours de grossesse. »
En fait, j'avais perdu un peu de liquide amniotique et je devais passer le mois avant l'accouchement sur surveillance à l'hôpital. Là-bas, à l'hôpital, pendant toutes ces semaines, on me disait que je pouvais accoucher à tout moment, en fait. Du coup, à l'hôpital, on m'avait fait prendre un médicament qui déclenchait les contractions pour me faire accoucher dès que notre enfant n'était plus considéré prématuré. Donc ça, c'était pour ne pas prendre le risque d'une infection. Donc je savais à quel moment, enfin une semaine avant, je savais à quel moment ça allait arriver. Pendant la semaine que je suis restée à l'hôpital, j'avais aussi le temps de me faire plutôt une idée assez précise de ce que pouvait être un accouchement. Je voyais des femmes en travail juste avant d'aller dans la salle d'accouchement. Je les voyais ensuite revenir avec leur bébé tout frais. Et parfois, il y avait des hurlements aussi qui me réveillaient la nuit. J'entendais des femmes hurler toute la nuit, ce qui pouvait me faire peur aussi. J'avais même vu naître un bébé avant la porte de l'ascenseur de la maternité. Donc je voyais que ça pouvait se passer sous toutes les formes. Et puis je me rappelle que c'était des sentiments de peur, je dirais, surtout. Mais aussi d'impatience et de joie de enfin rencontrer ce bébé qui était dans mon ventre pendant tout ce temps.
Alors Camille, comment est-ce que toi tu te sens par rapport à ça?
Alors j'y ai pas beaucoup réfléchi encore. Pour l'instant, je suis surtout dans le... j'espère surtout ne pas accoucher prématurément et ne pas devoir être alitée les derniers mois. Ça me stresse plus. L'accouchement, je sais que ça va pas être un moment agréable, mais... J'ai pas trop d'appréhension là-dessus. Je pense qu'on a la chance d'être dans un pays où c'est ultra rodé. On est très bien entouré. On saura. Enfin, j'ai pas de crainte en fait. Je sais que je pourrais être prise en charge s'il y a un problème et que ça me fait pas trop peur. C'est plus l'après-accouchement qui me. Les premiers jours en fait, dont on parle pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on est enceinte, tout le monde nous demande comment on va, comment on se sent, etc. Et j'ai l'impression pas beaucoup juste après l'accouchement. Et moi, j'appréhende un peu ça, de pas savoir gérer, d'être trop fatiguée, je sais pas, d'avoir l'impression de pas être à la hauteur, et puis d'avoir mal en fait en post-accouchement que le postpartum soit long et douloureux. C'est plus ça qui m'angoisse, plus que l'accouchement.
Amélie, je te vois acquiescer.
Oui, bah, moi, pour le coup, j'ai eu une bonne expérience d'accouchement. J'en garde un très bon souvenir aussi. Et j'avoue que j'étais absolument pas stressée. J'étais hyper impatiente. Je m'étais mis dans la tête, de toute façon, elle arrivera début juillet parce qu'il va faire chaud, donc voilà, le terme était le 22, donc j'ai bien attendu jusqu'au 22. Hein. tout s'est hyper bien passé. Pour le coup, je voulais essayer sans péridurale. Je l'ai demandé en arrivant à l'hôpital, mais tout est allé tellement vite qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps de me faire une péridurale, donc j'ai pas eu la péridurale. Donc au final, j'étais très contente aussi parce que c'était quand même un de mes souhaits. Et j'acquiesce Camille parce que moi, j'ai pas bien vécu l'après. Enfin, j'ai pas bien vécu l'après, le séjour à la maternité. J'ai détesté le séjour à la maternité.
C'est-à-dire
je me suis sentie très seule. Parce que bon, alors j'ai eu de la chance parce que Simon a pu être présent à l'accouchement. Il a pu être présent sur les 3 jours où je suis restée à la maternité. Il est parti le soir, donc à chaque fois qu'il partait, c'était l'enfer. Je pleurais, je voulais qu'il reste, je voulais pas être toute seule. Et surtout, je me suis sentie pas du tout coucounée, en fait. J'avais envie d'un truc très coucoun, j'avais envie qu'on s'occupe de moi, j'avais envie d'avoir une personne référente qui veille sur moi. Et en fait, j'avais 15 000 personnes qui débarquaient dès le matin dans la chambre pour s'occuper du bébé, pour ci, pour ça. J'étais plus ou moins prévenue, Puis j'en avais surtout pas envie, en fait. Ouais, on voit plein de gens différents, c'est jamais les mêmes, ça défile. Alors après, je crois que la maternité était bien pleine à la période où j'ai accouché, mais j'en garde un mauvais souvenir, en fait. Voilà.
Et Joséphine, qu'est-ce que t'en penses de tout ça quand tu entends cette expérience
de la maternité? De la maternité, je peux complètement comprendre, je pense. Après, c'est organisé comme ça, c'est un peu facile de dire ça, mais en tout cas, oui, c'est organisé comme ça, et les équipes, elles font ce qu'elles peuvent à ce moment-là.
Mais il y a vraiment une différence de traitement entre le moment où on est enceinte et puis le moment après où...
Je pense que c'est les besoins aussi qui sont différents, en fait. Peut-être qu'enceinte, on arrive à gérer, enfin, je sais pas, j'ai jamais été enceinte, mais je m'imagine que les femmes, elles savent se gérer, que les moments de cocooning, peut-être qu'elles arrivent à l'avoir, quoi, avec des personnes proches, etc. Après, au moment de l'accouchement, c'est souvent très dépendant de l'activité qu'il y a à côté. Du coup, la disponibilité de la sage-femme, elle dépend vraiment... De ce qu'il y a autour, s'il y a plusieurs personnes en travail, si il y a des urgences à côté, si tout ça, et ça c'est vraiment dommage. D'ailleurs, il y a une pétition qui tourne en ce moment pour une femme, une sage-femme, donc si vous voulez aller la signer, une femme qui accouche devrait être suivie par une sage-femme vraiment pleinement, et que cette sage-femme, elle soit que dédiée à cette personne-là, pour le confort, pour l'intimité, pour tout, quoi. Et pour l'après-accouchement, je reconnais vraiment les... En fait, c'est un service hospitalier, quoi. Donc, en tant que sage-femme, des fois, on a
10 patientes, plus il faut gérer les bébés, le lien avec les pédiatres, on a plein de coups de fil, tout ça. Enfin, c'est vraiment comme ça que moi je le vis à l'hôpital. Et du coup, ben oui, des fois on passe 10 minutes avec la maman, voir si tout va bien, on répond à 2-3 questions, on essaye de repasser l'après-midi si on a le temps, mais des fois c'est pas toujours. Enfin, on essaye vraiment de faire ça en tout cas au maximum. Et c'est vrai qu'il y a un nombre important de entre la femme de ménage, l'ASH, l'auxiliaire puéricultrice, le pédiatre parfois. Enfin, il y a plein de personnes et ça change tous les jours parce que c'est un service hospitalier.
C'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Peut-être que ça changera un jour quand on aura une femme, une sage-femme pour commencer.
C'est ça.
Merci beaucoup Amélie, Camille, Joséphine et Solène qui est déjà partie d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir partagé surtout.
Merci Karina.
Merci Karina. Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler grossesse et puis la semaine d'après pour parler de l'après. À bientôt.